Radio Open FM. L'Europe et nous, info, histoire et actu. Plongée au cœur de la culture européenne avec la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin.
Bonjour à tout le monde, ou buongiorno en italien. Je suis aujourd'hui accompagnée de Marie-Lou et Justine et nous continuons notre périple à Rome pour cette nouvelle chronique. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on rappelle que vous êtes partie en Italie et plus précisément à Rome. En effet, lors de la dernière chronique, nous avions raconté... Vous nous aviez raconté avoir profité de la Dolce Vita, comme on peut dire là-bas, non ?
Oui, oui, exactement, Delphine. Et nous sommes partis une semaine à Rome, donc dans le cadre professionnel, pour une formation Erasmus+, chose que nous avions déjà expliquée la dernière fois.
Oui, je suis justement très curieuse, et notamment sur l'histoire et les origines de cette ville.
Oui, c'est tout à fait compréhensible, et comme beaucoup d'ailleurs, l'architecture de Rome est d'ailleurs très mystérieuse. Parce que l'Italie a fait son entrée au sein de l'Union européenne depuis que le traité de Rome a été signé en 1957, ce qui rend notre formation d'autant plus enrichie.
Oui, c'est vrai, mais avant d'en découvrir plus sur l'architecture, remontons aux origines plutôt anciennes de la ville, si je ne me trompe pas.
Effectivement. Alors, la ville de Rome est chargée d'histoire, comme on peut le savoir. Qu'elle soit fictive ou non, les historiens eux-mêmes ne savent pas réellement ce qui est réel. Mais ce que l'on sait, c'est que selon la légende, deux jumeaux, nommés Romulus et Rémus, seraient nés puis abandonnés par leurs parents. À la suite de cela, une louve appelée Luperca aurait été leur mère adoptive en les récupérant, puis les aurait allaités dans sa tanière au Mont Palatin, une des sept collines de Rome située près du Forum romain que nous avons pu visiter. Enfin, ils auraient par la suite été retrouvés et sauvés par un prêtre qui les aurait fait élever par sa femme.
Oui, c'est bien ça, Marie-Lou, mais cela ne les aurait pas réellement sauvés puisque les jumeaux auraient souvent été en désaccord, et notamment sur la fondation de ce qui est aujourd'hui la capitale du pays. C'est pourquoi Romulus aurait fini par tuer son frère Rémus dans les années 754 avant Jésus.
Eh bien, il s'agit d'une légende qui se termine tristement.
Et c'est le cas de le dire, cependant, l'autre théorie serait davantage tournée vers la culture. En fait, selon certains archéologues, Rome n'aurait pas été fondée par Romulus et Rémus. Il s'agirait plutôt de différentes cultures qui se seraient unifiées jusqu'à la création du royaume antique. Et c'est cette unification qui aurait eu lieu lors de la civilisation étrusque, une période qui s'étend donc du 9e siècle avant Jésus-Christ à la Renaissance du 16e siècle. Et parmi ces cultures, on retrouve les Grecs au sud, les Italiques originaires d'Europe au centre. Et aussi, au nord, on retrouve les Étrusques.
D'accord, donc c'est cette époque que l'on retrouve beaucoup de vestiges.
Oui, en partie. Et d'ailleurs, derrière chacun d'entre eux, il y a une histoire. C'est pour ça qu'avec Justine, nous avons jugé primordial d'en visiter quelques-uns quand on était là-bas.
Ah oui, super. Avez-vous pu visiter le Vatican ?
Oui, bien sûr. Donc là, on n'est plus en Italie. Donc la cité du Vatican, où le siège du pape actuel Léon 14 est en fait une ville-état située au sein même de la capitale italienne. Elle est constituée de l'église catholique ainsi que de la résidence officielle du pape. Mais le Vatican est aussi connu pour sa grande richesse artistique, notamment avec la chapelle Sixtine, célèbre pour sa fresque du Jugement dernier peinte par Michel-Ange, un sculpteur important de l'époque. Et malgré sa petite superficie, le Vatican reste un état indépendant et le centre de l'histoire du catholicisme dans le monde.
Ce lieu est d'ailleurs devenu un site de pèlerinage où l'empereur Constantin fait bâtir une basilique qui a ensuite été remplacée par l'actuelle basilique Saint-Pierre construite sous le pape Jules II que nous avons pu visiter quand nous étions à Rome. Donc avec ses 136 mètres de haut, elle est actuellement la plus grande basilique au monde et il est interdit d'en construire une plus haute. Et enfin la place Saint-Pierre, la colonnade du Bernin et le palais apostolique ont été édifiés, ce dernier étant la résidence officielle des papes.
Vous m'avez raconté l'histoire du Vatican, mais qu'en est-il maintenant ?
Alors, depuis les accords du Latran qui ont été signés en 1929 avec l'Italie, le Vatican est reconnu comme un état souverain. Il est aujourd'hui le plus petit état au monde et le siège du Saint-Siège, qui est dirigé par le pape.
D'accord, intéressant. C'est un peu comme Monaco situé en France. J'ai aussi beaucoup entendu parler des fontaines à Rome. Vous êtes-vous rendu à la fameuse fontaine de Trevi ?
Eh bien oui, donc comme on a pu le dire la dernière fois, donc on y a été. Et pour la petite histoire, selon le film La Fontaine aux Amours de 1954, il serait coutume d'y jeter une pièce de sa main droite en la passant par-dessus son épaule gauche pour que son vœu le plus cher se réalise ou tout simplement qu'il ait avoir la chance de retourner à Rome. Et bien évidemment, c'est ce que nous avons fait, donc on a tenté notre chance. Et nous fêtions récemment la Saint-Valentin, et bien sachez que si vous en lancez deux, vous pourriez tomber amoureux ou amoureuse d'un Italien ou même d'une Italienne.
Mais quelle histoire, mais quelle est l'histoire de ce monument?
Alors la construction de l'actuelle fontaine de Trévis a été demandée par le pape Clément XII qui en 1732 a mis en place un concours afin d'élire un architecte pour ce projet et c'est Nicolas Salvi qui a été choisi.
Et d'ailleurs son œuvre reste le seul des aqueducs antiques encore en service et de la plus célèbre des fontaines romaines. Elle se présente sous la forme d'un arc de triomphe avec des statues, mais aussi des colonnes et des arcades de style baroque. Les Romains étaient voués au culte de l'eau, c'est pourquoi ce thème est présent à de nombreuses reprises dans la création.
L'arche est donc composée de trois grandes statues et elle mesure 50 mètres de large sur 26 mètres de haut, donc ce qui est plutôt grand. Et on y retrouve une sculpture de Neptune, le dieu de l'océan dans la mythologie romaine, au centre de la fontaine. Et à droite, on voit une jeune femme qui est représentée. Et enfin, à gauche, c'est Agrippa, un ancien consul romain qui est présent.
Et saviez-vous également qu'en dessous de la fontaine de Trévis se trouvaient des ruines d'une ancienne ville surnommée Cité de l'eau? En fait, également nommée Vicus Caparius, cette cité abritait autrefois des réservoirs d'aqueduc. Aujourd'hui, l'un d'eux fournit encore de l'eau à cette fontaine et on y trouve aussi des restes d'habitations datant du 1er siècle.
Ah, c'est que cette fontaine est riche en histoire, tout comme en pièces d'ailleurs. Et ça me fait penser, vous parliez de l'élancée tout à l'heure, mais que deviennent-elles?
Alors, autrefois, des adultes et des enfants récupéraient les pièces du bassin à l'aide d'un aimant accroché à un bout de ficelle. Mais de nos jours, la fontaine est surveillée par la police et il est interdit d'en récupérer. Il est interdit d'ailleurs de s'asseoir sur les marches ou sur le bord de la fontaine. Et cependant, donc, pour revenir aux pièces, tous les lundis matin, la fontaine de Trévis est vidée. Les pièces y sont rassemblées puis aspirées, ce qui représente chaque année environ 1 million d'euros qui sont récoltés pour être reversés à l'association caritative catholique Caritas.
Et si jamais vous souhaitez vous y rendre suite à notre superbe description, pensez qu'il faut maintenant emmener plusieurs pièces avec vous, donc une pour faire un vœu et l'autre pour payer parce que maintenant l'entrée est devenue payante.
Et oui, sacrée attraction touristique. J'espère y aller et pouvoir tenter ma chance. Et pour continuer dans les bâtiments de la Rome antique, j'imagine que vous avez aussi essayé de visiter le Colisée.
Oui, bien sûr, impossible de ne pas mentionner le Colisée, d'autant plus qu'il est l'un des monuments les plus emblématiques de Rome. En fait, il s'agit du plus gros amphithéâtre construit sous l'Empire romain, donc en 70 après Jésus-Christ, et des combats de gladiateurs et autres activités avaient lieu, attirant des milliers de Romains dans le but de soutenir l'empereur.
Et le Colisée était autrefois appelé amphithéâtre Flavien, car il a été construit sous la dynastie de différents empereurs Flaviens sur 8 ans, Vespasien, Titus, son fils, et Domitien. Ce n'est que plus tard que son nom actuel du Colisée lui est réellement donné, dû à la proximité entre le monument et la statue colossale de Néron.
Ah oui, le Colisée aurait alors pris le dérivé du nom de la statue, mais je crois que si cette statue ne semble pas être en ruine, le Colisée, lui, il est un peu, peut-être, non?
Effectivement, au fil des siècles, de nombreux dommages ont été causés. Cependant, l'amphithéâtre a tout de même résisté au temps. Et même s'il est quand même un petit peu en ruine, il reste présent comme symbole de la Rome antique et est considéré comme l'une des sept merveilles du monde.
Oh, donc vous avez visité l'une des sept merveilles du monde?
Oui, et pas très loin, on retrouve aussi le Forum romain, qui est également en ruine, constitué d'un ensemble de basiliques, de temples, ainsi que du Mont Palatin, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est une fameuse colline donnant vue sur ce lieu.
Ça devait être vraiment très impressionnant à visiter.
Oui, surtout que nous connaissons un film réalisé par Ridley Scott en 2000, donc c'était le film Gladiator qui permet de visualiser un peu cette histoire romaine.
Ah oui, je le connais, l'histoire s'inspire du monument en plus, non?
Oui, tout à fait, c'est un film américano-britano-maltais qui permet de rendre l'image cinématographique de l'Empire romain la plus réaliste possible, puisque des historiens, mais aussi des centaines de techniciens britanniques et d'artisans locaux qui ont travaillé durant des mois pour recréer le Colisée, du moins son image, qui est considéré comme un symbole de l'Empire romain.
Il s'agit d'un beau projet.
Oui, mais aussi d'une sacrée responsabilité qui a dû demander un long travail pour l'équipe pour reconstituer le Colisée.
Bon, très bien, alors il me semble que cette chronique touche à sa fin. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette belle aventure. Je vous dis à bientôt.
Merci, bonne fin de semaine et à bientôt.
À bientôt.
C'était l'Europe et nous. Infos, histoires et actus autour de la culture européenne. À retrouver chaque semaine avec la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges. 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.